vas parler de des nationalistes, je vous en prie.
Merci beaucoup, Anne-Dame. Est-ce qu'on a jusqu'à 15h30 à peu près? Oui, c'est ça. Alors je voudrais qu'on commence, si vous pouvez le déclencher, par un court extrait vidéo de 2 minutes 30 de Robert Badinter en 2007, le 12 mars 2007 exactement, lors du procès que Robert Forisson lui a intenté, parce que Robert Badinter l'avait qualifié de faussaire de l'histoire. Robert Badinter a gagné ce procès en diffamation, et c'est Forisson qui a finalement été dégoûté et condamné à lui payer 5 000 euros. Enfin, de dommages d'intérêt. J'aimerais qu'on écoute cette charge, puisque vous le savez, Robert Badinter nous a quittés il y a quelques semaines maintenant. On peut lancer la vidéo.
Je terminerai, parce que je tiens à le dire sur une note plus personnelle, encore. Monsieur Forisson, tout à l'heure encore, vous a répété, oui. Oui, cette entreprise, cette escroquerie politico-financière. Alors, ça veut dire quoi? Si on traduit dans cette vérité humaine que moi je l'ai vécue, ça veut dire que tous ceux qui sont morts, les parents et les autres, tous ceux-là sont devenus les instruments conscient, utilisé par tous les juifs, pour quoi faire? Pour arracher des réparations auxquelles ils n'auraient pas eu droit? Et j'en verrai toujours ma mère recevant misérables indemnités parce qu'il ne restait rien. Alors elle était quoi? La complice d'une escroquerie politico-financière? C'était ça qu'elle faisait à cet instant-là, et ses fils, nous, c'étions quoi? Les profiteurs, les bénéficiaires de cette escroquerie, les mots d'un sens, sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous, et pour qu'il n'y ait aucune équivoque, que les choses soient claires. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire. Des faussaires de l'histoire et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir.
Voilà, j'ai immédiatement pensé à ce passage lorsque Robert Badinter fait l'annonce de disparition de Robert Badinter, parce que tout est dit, et c'est exactement ce que vous disait Stéphanie Cher tout à l'heure, à travers le négationnisme, on accuse les victimes d'être des escrocs, d'être des menteurs, et ça c'est vrai de tous les négationnismes. Lorsqu'on dit que les Tutsis n'ont pas, que les Tutsis ont eux-mêmes organisé leur propre génocide, c'est ça qu'on dit. On dit ce sont des escrocs, ce sont des menteurs. Je voulais rapidement passer en revue ce qui s'est passé au cours de l'année qui s'est écoulée entre les dernières assises contre le négationnisme et aujourd'hui, parce qu'il s'est passé des choses sur le front de la lutte contre le négationnisme, en particulier une opération de communication avortée, échouée, de la part de Dieudonné, grand ami de Robert Forisson, justement. Dieudonné qui a essayé, beaucoup de maladresse, mais avec beaucoup de perversité en réalité, de demander pardon aux Juifs. Il s'est rendu à Auschwitz en mai dernier, en compagnie de Francis Lalanne, avec qui il va présenter une liste là, pour les prochaines élections européennes. A priori, ça va se faire, il devait monter sur scène avec lui. Ça nous raconte quelque chose de l'intrication entre la mouvance négationniste et la mouvance complotiste la plus dynamique aujourd'hui, et qui se noue autour de la sphère sorallienne, dieudonniste notamment. Dieudonné s'est rendu à Auschwitz, nous avons les images, ça a été filmé, et à un moment, avec Francis Lalanne, ils disent des mots en hébreu, sous la dictée de Francis Lalanne, une sorte de prière, au niveau de Kaddish. Donc il faut imaginer qu'ils sont devant la voie ferrée qui mène au camp d'Auschwitz, à l'entrée du camp. Évidemment, ils ont la tête couverte et Dieudonné revêt un chapeau. Et on apprendra quelques mois plus tard que ce chapeau, c'est le chapeau de Robert Faurisson. Et qu'en réalité, c'était un hommage à Faurisson qui était en train de faire là. Voilà jusqu'où ça peut aller, le négationnisme. Il ne s'agit pas seulement de néantiser les victimes, il s'agit aussi de piétiner leur mémoire sur le lieu de leur massacre, sur le lieu de leur assassinat. Alors, il s'est passé sur le front du négationnisme quelque chose d'intéressant aussi. On avait l'un des principaux négationnistes français, un hyclérolâtre complètement nazi, qui s'appelle Vincent Renoir, prof de maths, qui s'était échappé et fui en Écosse. Il a été retrouvé l'année dernière par la police, il a été incarcéré, finalement extradé il y a quelques semaines, en janvier ou février 2024, extradé vers la France, où il n'a pas été mis en détention, et vraisemblablement il bénéficiera d'un aménagement qui fait qu'il ne retournera pas derrière les barreaux, même s'il continue son œuvre négationniste, ce qui lui a permis de passer donc, tout un tas de médias, notamment des médias complotistes, pas plus tard qu'il y a 8 jours, sur un média particulièrement toxique qui s'appelle Géopolitique Profonde et où Renoir a fait son coming out accélérationniste, puisqu'il dit qu'il faut que les gens aient peur, il faut que les gens aient faim, il faut qu'ils aient froid, exactement quels sont ses propos, mais en tout cas, il faut que les gens se sentent menacés, en danger, tant qu'il y a encore une race blanche à sauver. Parce que s'il y a l'effondrement, eh bien c'est la chance pour rétablir les choses. Vous imaginez le type de société auquel pense Vincent Renoir. Quand je dis qu'il est hyclérolâtre, c'est littéral. Hein. Quelqu'un qui adule Adolf Hitler. Eh bien, il passe sur un site comme Géopolitique Profonde, et ça fait quelques 200 000 vues en 24 heures, et ça ne pose aucun problème aux plateformes. On a signé la vidéo, elle est toujours en ligne, ça ne vous étonnera pas. Autre marque d'intrication entre cette complosphère et le mouvement négationniste, le soutien apporté il y a quelques jours par Hervé Ryssen. Hervé Ryssen, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur qui se définit lui-même comme raciste et antisémite. Il croit à la supériorité de la race blanche. Et il se dit également très ouvertement antisémite. Il pense que les juifs sont une vérole, qu'il faut supprimer les juifs, ou en tout cas les mettre à l'écart, les exclure de la société. Il a déclaré que la personnalité politique qu'il voulait défendre, soutenir, c'était François Asselineau, c'est-à-dire un souverainiste, fondateur et président de petite formation souverainiste intégrale qui s'appelle l'UPR, et qui a une place toute particulière dans la complosphère, puisque c'est vraiment... Il a fait du complotisme, Asselineau, l'une de ses identités politiques réellement. Un point aussi, puisque je vous ai promis une actualité du négationnisme, je dois vous parler d'un sondage qui a été commenté d'ailleurs par Anne Rosenchet, il y a quelques mois, en décembre 2023, un sondage YouGov mené aux États-Unis et qui demande aux Américains, donc sont uniquement sur des Américains, s'ils pensent que l'Holocauste, puisque c'est la terminologie américaine, hein, vous le savez, est un mythe. Voilà, on demande aux gens, l'Holocauste est un mythe. Bon. Vous avez 20% des 18-29 ans qui répondent oui, c'est un mythe. 30% qui ne se prononcent pas. Et une minorité, je vais vous dire exactement, parce que j'ai les chiffres sous les yeux. Non, vous avez 30% qui ne se prononcent pas, et le reste qui dit non, ce n'est pas un mythe. On n'est pas d'accord. 20% donc chez les moins de 29 ans, c'est 0 à 1% chez les seniors, les plus 65 ans. Donc il se passe quelque chose. Moi je pense que, effectivement, le négationnisme, ces dernières années, a été largement contenu et qu'il progresse là où il y a de l'ignorance, il prospère, il fleurit sur l'ignorance, mais que cette histoire-là, la mémoire de cette histoire est en train de refluer le négationnisme, par les réseaux sociaux en particulier, s'engouffre dans cette brèche et fait des recrues chez les jeunes. Et c'est, je crois, tout à fait inquiétant. En tout cas, c'est quelque chose qui doit nous interpeller parce que ça nous montre, ces chiffres-là, que c'est une idée qui a de l'avenir aujourd'hui, le négationnisme. On parle bien de négationnisme sur le Holocauste. Autre résultat de ce sondage, c'est une idée qui est plus présente, ça vous étonnera peut-être, qui est plus répandue chez les démocrates que chez les républicains aux États-Unis. On pourrait croire spontanément, c'est le contraire. Le sondage YouGov nous indique le contraire. Le 7 octobre, je voulais en parler parce que nous avons là un exemple chimiquement pur de négationnisme qui se déploie sous nos yeux en temps réel et quasiment immédiatement. D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que on a du mal à qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre. Aucun mot ne répond vraiment à ce qui s'est passé là. Est-ce que c'est un pogrom, comme on le dit souvent ? Les pogroms, à travers l'histoire, ils ont fait beaucoup de morts, mais ils ont fait des dizaines de morts, pas des centaines d'un coup, en une journée. Est-ce que c'est une razzia ? Parce qu'il y a de ça. Hugo Micheron, spécialiste du djihadisme, utilise ce terme-là, parce qu'il finalement va chercher des gens qu'on ramène, qu'on prend en otage, donc ça renvoie à la razzia, et puis à l'histoire de cette région. Oui, mais ça ne dit pas tout. Attaque terroriste, oui, bien sûr, mais pas seulement. C'est pas un détournement d'avion, c'est pas une bombe qui explose. Ce sont des gens qui vont chez des civils, chez eux, parfois dans leur jardin, dans leur maison, pour les assassiner. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Il n'y a pas vraiment de mots, je crois, pour cela. En tout cas, ça a été très vite identifié par Deborah Lipstadt, notamment, comme l'attaque la plus meurtrière commise contre les Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la Shoah. Il suffit de visionner les images des exactions et d'écouter, de prendre la peine d'écouter le témoignage des survivants pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'un acte de guerre, dans le sens où ça n'est pas la guerre. Ce qu'on y voit ne ressemble pas à la guerre. Ça relève très clairement du crime contre l'humanité. Donc la question est, face à un crime contre l'humanité et la négation des différentes dimensions de ce crime contre l'humanité, est-ce qu'il faut parler de négationnisme ? Stéphanie Cher a raison de poser la question et de dire qu'il faut réserver ce terme à des crimes et à des crimes graves, aux crimes de génocide. Moi, je pense que lorsqu'on est face à un crime contre l'humanité, on doit et on peut l'utiliser. Je pense qu'elle a tout à fait raison lorsqu'elle dit que lorsqu'on parle de négationnisme économique ou même de négationnisme climatique, c'est pas un terme qui me met tout à fait à l'aise. Je crois qu'elle a raison d'être vigilant pour ne pas banaliser les choses. Mais je crois que dans ce cas-là, le terme de négationnisme s'applique tout à fait. Ce qui est fascinant avec ce qui s'est passé cet octobre, c'est que là où on aurait pu s'attendre à une manifestation de solidarité avec les victimes, avec les juifs notamment, on assistait au contraire à une galvanisation internationale de l'antisémitisme. L'explosion des actes antisémites en France, vous le savez, ailleurs aussi, aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Australie, on a entendu dans une manifestation très rapidement, hein, quelques jours après, gaz the Jews, gazer les juifs. Ces images d'Aghestan, je crois, de l'aéroport, de la capitale daghestanaise, où une foule cherchait un juif pour le lyncher, mais cherchait désespérément un juif, parce que la rumeur s'était développée qu'il y avait un juif dans cet avion, etc. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous avons vu, et dès 7 octobre, la constitution sous nos yeux, en temps réel, d'un argumentaire de facture négationniste, d'abord complotiste, on a entendu très rapidement, le jour même, hein, l'idée que c'était un false flag, une opération sous faux drapeau, il y a ce qu'on entend depuis vendredi soir concernant les attentats de Moscou, par exemple. Il a fallu que quelques heures pour assister à ce type de spéculation, et quelques jours pour voir apparaître une remise en cause radicale des faits dans leur matérialité. Je crois que tout à l'heure, Stéphanie nous disait que le négationnisme, c'est la négation des faits, de l'intention, de l'ampleur, des modalités. Là, on a tout ça. On a tout ça. S'agissant de l'intention, on a Judith Butler il y a quelques jours qui nous dit non, antisémites. Pas du tout. Pas du tout. On est face à un acte de résistance. Il n'y a pas d'intention de tuer des innocents. L'ampleur, on a des gens depuis cet octobre qui nous expliquent que les morts, en réalité, pour une grande partie d'entre eux, ne sont pas israéliens, ce sont des Palestiniens. On l'a lu et entendu. Et que d'ailleurs, côté morts israéliens, la grande majorité, le chiffre qui a été avancé, les deux tiers, sont des militaires, ne sont pas des civils. Des civils, ce serait juste des dommages collatéraux dans ce cas-là. La négation des modalités. Il n'y a pas eu de viol, vous l'avez entendu. Non, non. Ce n'est pas approuvé, ce n'est pas établi. Et puis, l'idée également, qui a été notamment énoncée par un politologue américain qui s'appelle John Mersheimer, qui est plutôt une pointure, hein, d'ailleurs, intellectuelle, connue, reconnue, qui nous dit, il y a quelques mois, un bon nombre des Israéliens qui ont été tués n'ont pas été tués par le Hamas, ils ont été tués par l'armée israélienne. Et on retourne, c'est-à-dire les victimes sont elles-mêmes leurs propres bourreaux. On voit ça sur le génocide des Tutsis. C'est exactement ça. C'est le FPR qui a abattu l'avion des Mirabinards, qui a déclenché le précipité génocide, pour avoir un prétexte pour envahir ensuite le Rwanda. Et puis, on a eu, chez un islamologue reconnu, certes, il y a des accointances dans les milieux islamistes, mais tout de même, François Burgia, et un ancien journaliste du Monde, Xavier Termicien, pour ne pas le citer, la mise en doute de la réalité de la mort d'enfants, de bébés en particulier, avec l'idée que le journal israélien Haaretz, qui est un journal tout à fait sérieux, aurait établi qu'aucun décès d'enfants de moins de 3 ans n'aurait été enregistré. En réalité, sur le Haaretz, on avait effectivement une comptabilité des victimes du 7 octobre, qui n'était pas d'ailleurs une comptabilité définitive, donc tous les jours, à peu près, ils le mettaient régulièrement à jour, une sorte de tableau, si vous voulez, et cette liste n'était pas complète, elle n'a jamais prétendu être une liste complète de victimes. La réalité, c'est que la plus jeune victime, cet octobre, c'est une enfant âgée de 10 mois. Elle a été assassinée par balle. Donc c'est pas une explosion, c'est pas un dommage collatéral. Elle a été assassinée par balle au kibbutz Be'eri, vous avez peut-être entendu parler, et elle s'appelait Mila Cohen. Merci.